Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tu fais quoi, les Beach Boys?
Les Beach Boys faisaient des chants de Noël.
Salut, c'est Louise Petrouchka.
Et salut, c'est Clément.
Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le son d'après. C'est la rentrée, tout le monde est ravi d'être rentré de vacances.
Non. Mais nous on est content d'être là.
Je suis Louise Petrouchka et je suis comme toujours en compagnie du meilleur binôme de la planète. J'ai nommé Clément, bonjour.
Bonjour.
Comment tu vas?
Ça va très bien et toi?
Oui, ça va formidablement.
Est-ce que tu as passé des bonnes vacances?
Très bonnes, je suis ravie quand même de la rentrée car c'est un moment que j'aime bien. Voilà, je fais partie de ces gens-là.
T'aimes bien, tu prépares tes petites affaires.
Exactement, je prépare ma tenue de rentrée. Tu vois, je suis prête, quoi.
Tes nouvelles petites sneakers.
Bien sûr, j'ai acheté mes nouvelles affaires. Tu sais, genre j'ai fait les magasins dans le truc Auchan là, au rayon fourniture scolaire.
Exactement.
C'était super. J'adore.
Voilà. Tout ça. Parfait.
Toi, t'aimes bien la rentrée? Non, pas trop.
Pas plus que ça. Oh, et puis là, tu vois, faut se remettre au travail, faut réorganiser un peu les projets, ce que j'ai voulu faire
justement
cet été. Et puis en fait, pas vraiment. Donc maintenant, c'est le moment, là, il faut s'y mettre.
Mais oui, c'est très bien.
Mais c'est cool. En tout cas, le soleil est là. Et c'est toujours agréable aussi de se remettre au travail. Et surtout,
de réenregistrer le son d'après.
Voilà, exactement. Parce que là, ça faisait longtemps.
Oui, ça faisait longtemps. On espère que nos petits épisodes de l'été thématiques vous ont plu. On reprend sur les bases habituelles un épisode, quatre artistes. Clément, c'est toi qui ouvre le bal aujourd'hui. De qui vas-tu nous parler?
Eh bah, écoute, moi, l'été, forcément, déteint un peu sur mes choix du jour. Du coup, je vais vous ramener pas mal de choses. Je pense que j'ai surtout beaucoup écouté cet été.
Ok.
Et le premier artiste, c'est peut-être l'artiste que j'ai le plus écouté, effectivement, cet été. Il s'appelle A2H. C'est un rappeur, musicien, producteur et beatmaker. Quelqu'un vraiment que je suis depuis un moment. Et du coup, je suis hyper content de enfin le ramener dans le son d'après. Ce d'autant que vraiment il a sorti un nouvel album en début d'année qui est vraiment incroyable, je dis beaucoup vraiment, mais c'est parce que ça vient vraiment du fond du cœur. Donc pour vous le situer, c'est quand même quelqu'un qui est là depuis 2011. Moi c'est le moment où je le découvre, enfin 2011, en vrai sa première vraie mixtape sort en 2011, mais lui il avait déjà commencé un peu à faire de la musique avant ça. Mais depuis 2011 il a quand même déjà sorti plus d'une quinzaine de projets. Donc,
plutôt productif.
Voilà, l'artiste ne chôme pas. Donc moi je le découvre avec sa première mixtape. Moi c'est 2011, c'est vraiment la période où je me mets vraiment à plonger à fond dans le rap. C'est-à-dire j'en écoutais avant, je l'ai certainement déjà raconté ici, mais avant on va dire que les artistes venaient à moi. Donc j'avais pu, tu vois, j'écoutais déjà à l'époque du MC Solar, du Booba, du Kerry James, ce genre de choses. Mais vraiment 2011 avec les Rap Contenders, 1995, toute cette période-là. Je sais pas, ça, il y a une boulimie d'envie de découvrir et du coup je plonge à fond là-dedans. Et c'est comme ça que je découvre A2H au détour d'un featuring avec Nekfeu. Le morceau s'appelle Doux et moi je me prends le son totalement. Bon, Nekfeu, il est à ce moment-là, c'est le jeune Nekfeu qu'on aime bien.
C'est fougueux là.
Exactement. Et puis moi du coup je découvre A2H et je sais pas, j'aime bien la vibe que dégage le boug. Du coup j'approfondis ma recherche et je commence à télécharger ses projets. Du coup, à l'époque, c'était surtout des projets gratuits que tu téléchargeais sur des sites de mixtape, genre datpif.com. Et A2H, du coup, c'est vraiment ce profil de rappeur technique qui émerge à cette période-là, avec l'entourage, avec Joke, avec Dinos, avec Bon Gamin. Et j'accroche. Et moi, de ce que je me souviens de ses projets à l'époque, c'est qu'il avait un peu un petit côté... stunner rap, tu sais, ou rap sous weed.
Ouais, bien sûr.
Le mec est loxé, des petites feuilles de cannabis qui apparaissent sur les projets, tu sais, sur les pochettes des projets. Une série de mixtapes même intitulée Summer Story Kush Tape, sans oublier un projet en commun avec ALPHA, qui est lui le représentant français peut-être le plus emblématique du rap français de ride à la sauce West Coast.
Okay.
En fait, il le dit lui-même, j'ai vu dans une interview qu'à cette époque-là, il voulait être un peu le Wiz Khalifa français. Tu vois. Et à travers tous ces différents projets que j'ai écoutés, mais j'avoue, je les écoutais un peu de trois quarts, c'est-à-dire que j'aimais bien, mais sans les saigner à fond, tu vois, j'aimais bien la vibe qu'il transmettait, mais sans
t'écoutais être... pour la culture un peu, non? Genre en mode pour te
ouais, pour la culture, et puis en même temps, il y avait un truc, tu sais, avec A2H, il y avait aussi ce côté... rappeur un petit peu quand même moins connu que les autres. Et tu sais, t'aimes ouais. bien toujours avoir ton petit rappeur que t'aimes bien écouter de temps en temps. Et puis justement, c'était un peu une autre ambiance. Moi, je suis pas spécialement tu vois, un fumeur ou un gros truc ouais. dans cette ambiance-là, mais j'aimais bien effectivement le mood qui pouvait laisser transparaître, quoi.
Okay.
Et donc, j'ai suivi un petit peu, petit à petit, les projets qui je les écoutais. Sauf un vraiment, et dont je vous parlerai dans les recommandations, vraiment j'ai saigné. Mais sinon, globalement, voilà, j'écoutais un peu quelques okay. morceaux, j'aimais bien et tout. Et puis vient un tournant en fait en 2018 où là il revient avec un son beaucoup plus guitare R&B, alors qu'avant c'était un rappeur somme toute un peu comme tous les autres,
ouais.
Où je le distinguais pas plus à part son charisme individuel, quoi.
Okay.
Mais là, ouais, cette approche plus folk, guitare m'interpelle. Même déstabilise, donc je sais que je ne plonge pas à fond là-dedans.
Mm-hmm. C'était trop tôt, t'étais pas encore dans ta période Taiki.
Je pense que c'était pas encore, c'était peut-être un peu tôt pour moi, et puis je reviendrai, je pense qu'aussi, tout simplement, il a, tu vois, c'était en 2018, il a amélioré sa formule,
ouais,
et on en vient justement à 2022, où là, il est revenu avec un nouvel album, où je pense vraiment qu'il a perfectionné cette patte-là, au point que, bah, comme je te disais en introduction, je pense que c'est l'album que j'ai le plus écouté cet été. Donc je vous propose tout de suite là qu'on écoute un peu de son. On va écouter le morceau Savage en featuring avec le chanteur Monsieur Nov. Et on revient parler un petit peu, voilà, je continue de vous parler d'A2A, j'ai beaucoup de choses à vous dire.
Ah, elle ne parle pas pour rien. Oui, elle veut tout, elle prendra tout. Elle ne cherche pas de lien. Elle dit t'inquiète, moi j'encaisse les coups. Elle aime les va-et-vient. Mais il n'y a pas que ça. Elle veut que je la mange, la bois. Ou elle veut m'enlever de bras. Elle veut que je lui fasse un peu mal. Elle veut ressentir la rage. Et elle me dit prends-moi encore, même quand j'en peux plus. Attache mes bras, écarte mes jambes. Je veux ta langue, je veux tes mains. Là sur mes hanches, je veux que ça tremble moi. Elle me demande d'aller plus fort. Elle me supplie d'aller plus fort. Elle aime trop ça quand j'y vais fort. Ouais. Elle aime quand c'est sage, 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 sage. Entre ses cuisses et les chutes du Niagara, seules les menottes dans sa tenue d'apparat. Je voudrais son corps en or 24 carats. Tout à la night, tout à la life, that's what's up. Oh baby, tu.
C'était A2H et Monsieur Nov sur le morceau Savage. La question
oui.
coutume, Louise, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Eh bien écoute, c'est un album que j'ai écouté pas mal en partie, puisque pareil, il fait partie des albums que j'ai pas mal écouté en ce début d'année, j'ai envie de dire.
Ouais.
Mais j'ai écouté, j'avoue, que la première partie, puisque en fait c'est un disque en deux...
Tout à fait, bah, c'était exactement de ça dont je voulais parler. Moi je sais que le choix du morceau, il a été... particulièrement compliqué, surtout tu sais,
ouais.
quand c'est un album que j'ai beaucoup
bien,
saigné.
Ouais.
Et l'une des raisons qui fait que j'ai pas mal galéré aussi, c'est qu'en fait c'est un double album, je vous l'ai raconté. Donc il y a A2H le rappeur des Coopers, et puis il y a A2H maintenant un peu le, j'ai envie de dire,
R&B.
Le lover, quoi, R&B lover, quoi. Et du coup, il le raconte en interview, il a maintenant un peu deux publics. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui veulent écouter A2H qui découpent, et ceux qui veulent les sons de lover.
Ouais, ouais.
Et du coup, parfois au sein d'un même projet, et bah, les gens sont jamais du coup contents.
Ouais.
Donc il s'est dit, et bah, voilà, je vais faire un double album avec la partie love qui s'appelle Une Rose,
ouais.
et la partie découpe qui s'appelle Une Lame.
Okay.
Donc c'est pour ça que l'album s'appelle Une Rose et une Lame.
Bah ouais, donc moi j'ai beaucoup écouté surtout la première partie, honnêtement. Je connais A2H pareil de nom, je me souviens qu'il faisait des freestyles, des machins à l'époque 2010, 2011, tout ça. Mais je m'étais jamais spécialement pris sa vibe jusqu'à cet album que je pense c'est toi qui m'as fait écouter, où j'ai entendu Nifa en parler en disant que c'était cool et tout. Je me suis dit bon, il y a plusieurs personnes qui m'en parlent, je vais aller
l'écouter. Il est passé chez Mehdi aussi dans le code, voilà.
Et du coup j'ai écouté et agréablement surprise sur plusieurs choses. Déjà la vibe que je kiffe, tu vois, la dernière fois on parlait de Némir et je trouve que c'est un peu dans le même genre où t'as plusieurs talents et tu t'en sers différemment et je trouve ça cool.
Ouais, tout à fait.
Et ça parle de sexe sur toute la première partie. C'est que du cul, du cul, du cul, et c'est du cul pas irrespectueux. Et ça, je vais pas vous mentir que ça fait du bien d'entendre des gars parler de sexe sans dire cette grosse pute, je lui jouais dessus et c'est tout, tu vois. Et,
ouais,
et
je comprends.
Bien sûr, je vais vous ramener à mon expérience avec Damso, qui a été quand même un peu, un peu douloureuse dernièrement sur le dernier album, que j'avais pas trop kiffé et on en avait parlé avec Nala. Là, pour le coup, quand j'entends à 2H, même si ça parle de sexe et même si ça parle de sexe sale,
bah en fait,
il y a toujours un truc de respect en fait. Même si il parle pas forcément de sa meuf ou quoi, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc un peu de.
Bah en fait, c'est ça que j'aime bien.
C'est mutuellement consenti qu'on kiffe le cul quoi.
Ouais, ouais, c'est ça. Bah, tu fais bien de pointer ça parce que justement, c'est l'une des premières raisons qui fait que j'ai choisi ce morceau en particulier. C'est que j'aime bien, comme toi, cette idée de cette manière de parler de sexe, d'être à la fois très frontal en fait, sans être vulgaire pour autant. Ou en tout cas, comme tu le disais, dans le vulgaire au détriment de l'autre. En fait.
Ouais, ouais.
Et moi, c'est pareil, du coup, ça me fait plaisir en fait d'entendre que bah, du coup, des rappeurs viennent un petit peu sur ce terrain-là. Mm-hmm. Alors, la petite nuance que justement que j'ai envie d'amener à ça, c'est de se dire, c'est un rappeur, mais en l'occurrence, il le fait sur un son beaucoup plus R&B.
Ouais,
d'ailleurs,
ouais,
le featuring avec Monsieur Nov, qui est Monsieur Nov, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un peu un OG du R&B en France.
Okay.
Parce que lui, il est là quand même depuis 2008, je crois. Okay. Sur des projets, donc et voilà, il a une voix incroyable et je trouve que là le binôme fonctionne très bien. Mais c'est vrai que du coup, toute la partie d'ailleurs où il parle de sexe, c'est la première partie de l'album,
ouais,
et
ouais,
c'est la partie plus R&B, j'ai envie de dire. Ce qui est du coup d'ailleurs me pose question, c'est-à-dire est-ce qu'un rappeur arriverait à aborder ce type de sujet sur un morceau vraiment plus trap? Dit comme ça, moi ça me vient pas à l'esprit. En tout cas, j'aime bien que lui se saisisse entre guillemets du sujet. Voilà, parce qu'en vrai, c'est ça. Moi, je
ça rejoint un peu en fait ce que tu disais la dernière fois sur Taiki, Franglish et compagnie, quoi.
Ouais.
Ce côté de jusqu'à présent, on voyait ça un peu comme un truc de mec qui rappe pour les meufs.
Meuf, ouais, c'est ça.
Et donc, du coup, est-ce que A2H rentrait pas dans cette case avec ce truc-là? Je sais pas. En fait, comme j'ai pas du tout, enfin pas du tout, très peu écouté la deuxième partie de l'album, j'avoue que je sais pas de quoi il parle dans la deuxième partie de l'album.
Bah, globalement, on va dire que la deuxième partie de l'album, c'est un peu plus...
Ego trip, genre.
Ouais, Ego trip et le A2H que je connais. Donc, mais c'est vrai que c'est le A2H qui, en soi, je pense, pour lui, c'est facile. Tu vois, c'est vraiment, c'est de la découpe, il y a de la bonne rime. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert A2H, donc je l'aime bien. Mais moi, je vais concéder que depuis quelques temps, j'écoute beaucoup plus justement cette première partie d'album parce que, je sais pas, c'est vrai qu'il y a une sorte d'originalité qui me parle plus. Originalité, ou c'est peut-être pas tout à fait ça, mais...
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Voilà, j'aime bien ce que ça dévoile parce que notamment il y a aussi justement toutes ces questions d'amour, de sexe, tout ça un peu mélangé. Et puis je trouve que aussi cette première partie de l'album, et c'est un peu voilà, c'est la deuxième raison qui fait que du coup je vous parle de ce morceau et plus globalement de ce projet, c'est que je pense qu'il a touché quelque chose de très très bien. Ce d'autant que c'est pas que du R&B guitare, il y a d'autres moods sur cette première partie d'album qui fonctionnent hyper bien, des sons quand même plus rapides avec des tempos plus rapides, il y a même un son un petit peu dans les ambiances hispaniques, bachata, je crois que le morceau s'appelle bachata que j'adore. Et en fait, la différence, je pense, qu'il y avait avec 2018, justement, dont je parlais tout à l'heure, c'est que je trouvais qu'à l'époque, il y avait quelque chose de très plaqué, en fait. Tu vois, c'était, il y a une guitare, et du coup, on construit un peu le morceau autour de ça. Mais, je sais pas, je trouvais que ça manquait un petit peu de fluidité, tout ça, tu vois.
Okay.
Et là, je trouve qu'il a vraiment beaucoup... Il a réussi à rendre ça beaucoup plus organique, en fait, et à incorporer justement toutes ces sonorités plus R&B et guitare et peut-être musicale généralement au sein d'un ensemble qui, je trouve, fonctionne beaucoup mieux. J'ai pas l'impression d'avoir un rappeur qui veut faire de la guitare, quoi.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a un truc plus dans l'acceptation de toutes ces envies musicales et du coup d'essayer de les mettre un peu toutes dans ce truc-là, alors que peut-être la partie rap est un peu plus carrée en termes de prod un peu dans ce qu'on connaît déjà.
Oui, bah, je pense que la deuxième partie est certainement un poil un peu moins originale. Après, c'est pareil, je suis comme toi. Moi, j'ai quand même beaucoup plus écouté la première partie que la deuxième. La deuxième, c'est vraiment plus le A2H que je connais. Et alors que la première me surprend plus parce qu'il est dans le prolongement de ce qu'il a amorcé depuis quelques temps. Mais je trouve tout simplement qu'il le fait encore mieux, quoi.
Ouais.
Donc, et puis... Il y a des featuring aussi de qualité et qu'on apprécie particulièrement ici. Benjamin Epps, Prince Wally, Bakary. Moi, c'est des noms que j'apprécie retrouver sur un album de A2H. Il y a effectivement du coup Monsieur Nov. D'ailleurs, oui, je précise pour ceux qui ont peut-être déjà entendu Monsieur Nov mais ne le savent pas, moi je sais que je l'avais découvert à l'époque avec Alpha One sur un morceau qui s'appelle Chausse les crampons. Je crois que c'était sur le deuxième EP de solo d'Alpha One. Voilà, pour ceux qui...
Je sais pas cette ref.
Pour les connaisseurs, je vous invite tout simplement à aller écouter cet album. En plus, moi, c'est vraiment un mec que j'adore. Il est trop sympa. C'est un gros, tu sens que c'est un gros kiffeur de musique. C'est, voilà, il a Kanye West un peu comme mentor, donc forcément, ça...
Comme mentor ouais,
comme mentor, mais enfin, tu vois, comme oui, idole, mentor, comme idole, ce que ouais, tu veux, mais voilà, comme... C'est un peu son...
Parce que dans le mentor, il y a souvent une...
Oui, c'est vrai.
Une
oui,
relation, quoi.
Alors, mentor spirituel, on ouais, va voilà, dire, tu vois. Et puis, c'est quelqu'un aussi, je trouve, qui, notamment, donne beaucoup de force sur les réseaux aux autres artistes. Du coup, je sais pas, voilà, bon état d'esprit. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous parler de 10 000 choses, sa démarche d'entrepreneur un peu en solo, son rôle de producteur, voire même de ghostwriter avec certains artistes. Si c'est des moments guitare héros sur scène, là, où c'est vraiment l'apparente, c'est un musicien. Donc,
ah, ok, il fait de la, il voilà, fait de la guitare.
Il, sur scène, il a des vrais moments guitare héros et qui ont l'air hyper cool. Bref, voilà, là j'ai bien bavardé. Donc je ne peux que vous recommander d'aller écouter A2H, si quand même, bah, pour prolonger l'écoute.
Et oui.
L'album, évidemment, Une rose et une lame. Je vous ai dit qu'en 2016, j'ai vraiment tué l'un de ses albums solo, c'est l'album Libre. Moi, c'est vraiment l'album que je recommanderais. Je sais pas du tout si je suis objectif, parce que je l'ai beaucoup écouté, mais c'est juste, je trouve, un très bon album et une très bonne manière de rencontrer le rappeur A2H. Et puis, parce que j'ai réécouté un peu du coup des projets, j'avoue que je l'ai un peu redécouvert, parce que je me souviens l'avoir écouté mais il y a longtemps, mais vraiment l'album en commun avec ALPHA, qui s'appelle Studio Liqueur, c'est tellement cool, j'avoue que j'aurais voulu écouter ça tout l'été en fait. C'était, c'est vrai, parce que
tu t'es dit mince loupé.
ALPHA, c'est, je vous ai dit, c'est vraiment c'est la ride quoi. C'est hashtag la ride forever. Donc si vous avez envie, voilà, d'un petit son bon, on est sur un son plus 2010, mais
oui,
c'est vraiment tellement cool à écouter. Et puis voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ALPHA, je pense que c'est aussi une bonne manière de pouvoir le découvrir. Pour ensuite potentiellement aller écouter ses albums solo.
Ok.
Voilà, c'est tout pour A2H. On passe au son d'après.
Eh bien, on va changer radicalement d'ambiance. Moi, je vous le disais pendant l'intro, j'adore le mois de septembre. Même si ça fait 10 piges que je vais plus en cours, il y a toujours un peu cette ambiance de rentrée qui m'enchante. Et je sais qu'il y a tout un pan de la société qui assimile la rentrée à des nouvelles résolutions, des nouveaux objectifs, une productivité maximale. Et je vais pas vous mentir, parfois j'y adhère un peu. Mais je me rappelle aussi souvent que le capitalisme nous abraine et qu'il faut qu'on se calme. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait? Une chronique France Inter sur l'hyperproductivité ou bien une présentation d'un artiste pour le son d'après? Pas d'inquiétude, tout va bien. On est bien dans le son d'après et je voudrais vous parler d'une artiste et surtout d'un morceau que j'aime beaucoup et que je réécoute assez souvent, justement, quand je commence à me mettre un peu trop la pression dans la vie. Le morceau s'appelle Let It Go. C'est un banger techno qui dure 4 minutes, qui a tendance à me laisser dans une sorte un peu de transe. Il y a un gros kick, une basse bien énervée, et de temps en temps, la voix de la productrice et chanteuse galloise Kelly Lee Owens qui te dit de lâcher prise. Sur moi, ça fonctionne. On écoute et vous me direz si vous lâchez prise ou si ça vous a fait monter en pression. On verra.
Thank you.
Let It Go de Kelly Owens. On enregistre le matin, donc je sais pas à quel point Clément est réceptif à cette musique. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Je vais être honnête, là cette écoute était un peu étrange, effectivement. Ouais. Enfin, tu sais, je la prends, mais comme une sorte de rythmique un peu de. Je pourrais faire des choses dessus, tu vois, je pourrais m'activer, faire des. Je sais pas, ouais, tu vois, des choses que je pourrais faire dans la.
Dans le quotidien.
Ouais, voilà, je trouve que cette écoute-là est c'est un bon accompagnateur pour faire des choses.
D'accord.
Voilà. J'aime bien, je note, en essayant quand même de, tu vois, de poser vraiment l'attention sur le morceau, j'aime bien ces petites voix de l'au-delà, là, qui te bercent tout au long du morceau.
Ça, c'est très Kelly Owen, c'est très signature de cette personne.
Et bah, du coup, ça me donne envie, voilà, ça éveille ma curiosité sur ce qu'elle fait, parce que j'aime bien ce genre de truc-là. Après, globalement, sinon, ça serait quand même plutôt un morceau que je me verrais écouter tard dans la nuit, dans un hangar, entouré de gens un peu bien.
J'entends. En fait, moi, j'aime beaucoup l'énergie de ce morceau, et je suis d'accord avec toi, il a vraiment un peu deux fonctions, à mes yeux. Forcément, du coup, ça donne en effet envie d'aller se perdre dans un immense hangar pour danser. C'était d'ailleurs le but ultime de ce titre, qui a été à la base composé pour un DJ set qu'elle faisait à Fabric, qui est un des clubs phares de Londres.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Donc là-dessus, pas de doute, le morceau sert sa fonction principale. A priori, quand tu l'entends, tu te dis, bon, c'est fait pour être entendu sur un énorme système son et pour danser au milieu des gens. Et en même temps, c'est vraiment un morceau qui a une fonction un peu hypnotique. Je sais pas, on dirait qu'elle veut un peu te brainwash à coup de 808, tu sais, avec sa voix, justement.
Ouais, je sais ce que tu veux dire.
Un peu, du coup, elle répète ce mantra, let it go, de temps en temps, mais quand même elle t'envoie de la basse dans la gueule, et j'avoue que moi je peux et j'aime beaucoup l'écouter dans la vie de tous les jours, voilà, même si intentionnellement elle a créé ça pour le club. Moi, ce mantra de Let It Go, il fonctionne dans le quotidien, quoi. Et puis il y a un moment donné où il y a un break où elle répète Let It Go, et t'es en mode ça va repartir, ça va être vénère, ça va repartir, ça va être vénère, et tu sais, t'es un peu en train d'attendre ta drogue, quoi. Et quand ça repart, t'es vraiment trop heureux. C'est vraiment la fonction, t'es genre de frustration de la musique quand elle te libère de ce truc là t'es un peu genre ah enfin c'est bon. Et je me souviens très bien quand ce morceau est sorti, donc il date de 2019, je l'ai beaucoup écouté et c'était très apaisant pour moi. Justement, la voix de Kelly Owens, je trouve qu'elle est, elle a un truc très, ouais, c'est ça, hypnotique, je pense que c'est le mot, quoi. Et je trouve que ça intervient un peu presque comme la petite voix dans ta tête qui te dit parfois des trucs un peu nuls. Mmh. Bah là, pour une fois, elle te dit un peu l'inverse, elle te dit, tu sais quoi, lâche la grappe, tu peux pas gérer ce truc, c'est ok, lâche l'affaire. Et c'est pour ça que je pense qu'il est parfait pour la rentrée. Voilà, en tant que non-professionnel de la santé mentale, je vous prescris de l'écouter au moins une fois par jour attentivement, ça vous fera une petite méditation, c'est pas mal. Et pour vous en dire plus un peu sur donc Kelly Owens, c'est une productrice galloise qui est assez proche de Daniel Avery et John Hopkins, avec qui elle a collaboré. Ça s'entend un peu.
Ça s'entend, effectivement. Pour connaître un petit peu la musique des deux, ça, c'est effectivement. Ouais.
En fait, elle a longtemps bossé en magasin de disques à Londres, et aussi en tant qu'infirmière avant de se lancer à temps plein en tant qu'artiste. Elle a signé sur le label norvégien indépendant qui s'appelle Small Town Supersound dès la sortie de son premier EP en 2016. Et c'est un label qui a pour spécialité de signer des artistes un peu hybride, un peu dans le futur, quoi, que ça soit en musique électronique, en jazz ou en rock. Par exemple, pour vous donner des noms d'artistes plus ou moins connus, on retrouve Néné Chéri et Sonic Youth sur leur label, pour vous donner un peu un aperçu.
Ah ouais, la palette est large.
Des grands écarts musicaux, voilà, okay, qui peuvent se faire avec ce qu'on vient d'écouter. Elle a sorti en tout 3 albums, dont le dernier en 2022, qui est peut-être un peu moins accessible que les autres. Elle a bossé avec un mec qui s'appelle Lars Mahog, j'espère que je prononce bien, qui est un producteur norvégien de Noise Music, qu'elle a rencontré via son label, et l'album s'appelle LP8, et j'avoue que très franchement, il est pas hyper facile à écouter, et elle le dit elle-même, elle le joue pas sur scène pour le moment, elle organise des sessions d'écoute particulières pour mettre les gens dans l'ambiance de l'album, quoi. Genre, c'est des sessions d'écoute avec les gens qui sont allongés ou bien assis et tout machin.
Mais c'est quoi ? C'est parce que quand tu dis que c'est pas accessible, c'est
très noise pour le coup.
D'accord.
Tu vois, il y a un truc un peu moins accessible que là ce qu'on vient d'écouter. Bon, si t'aimes la musique de club, a priori t'es servi, quoi. Et dans ce qu'elle faisait sur les albums précédents, elle a 3 albums. Donc elle a son premier album où elle explique qu'elle a un peu fait. Elle a fait plein de morceaux, et puis à un moment donné, il fallait faire un album, alors elle les a réunis. Sur le deuxième, il y a un peu plus ce côté de réflexion conceptuelle d'album, etc. Voilà. Et donc, sur ce troisième, elle était un peu en mode, je vais tester d'autres trucs, en fait. Et puis, je crois qu'il a été fait pendant le Covid, donc je crois qu'il a été fait en 8 jours. C'était vraiment une session de travail avec ce coproducteur-là, et donc du coup, ça a donné ce truc qui est un peu difficile d'accès. Donc, si vous souhaitez commencer à écouter Kalili Wones. Moi, je vous conseille son deuxième album. Ça va doucement aller vers les recommandations. Son deuxième album qui s'appelle Inner Song, qui est sorti en 2020. Et il y a notamment des sons comme Melt et Night qui peuvent se rapprocher de ce qu'on a écouté là, dans une énergie techno, kick snare, basse mouvante, quoi. Night, il a vraiment une longue montée avant d'éclater de manière assez brute. Moi, j'aime beaucoup ce morceau. Il y a aussi d'autres facettes qui sont moins dans cette lignée techno, mais un peu plus dans... Je sais pas, une sorte d'expérimentation électro, mais toujours avec sa voix angélique. Et en fait, c'est un peu ça qui fait pour moi la patte de Kalili Wones, c'est vraiment sa voix et la manière dont elle l'utilise dans ses morceaux. Et ça crée vraiment cette espèce de patte musicale, quoi. Prochainement, vous allez très probablement l'entendre aussi pour la FIFA World Cup 2023 des femmes, car elle a réalisé la bande originale la pub, je sais pas, et elle a été approchée par FIFA pour faire ça. Donc je trouve ça marrant qu'il y ait des grands écarts comme ça qui se créent. Et donc elle disait qu'elle a vraiment essayé de penser en mode ça va peut-être être joué dans un stade, donc faut que ça soit un truc choral et tout machin, donc c'est assez cool. Et donc pour les recommandations, outre son deuxième album Inner Song, je voudrais vous recommander le morceau avec lequel je la découvre, qui s'appelle More Than A Woman, qui est une cover du morceau de Alia, mais version Kalili Wones, donc avec une touche électronique que j'aime beaucoup, et c'est un morceau que je mets souvent dans mes blind tests, parce que je suis en mode genre, il faut trouver le morceau original, chercher quel est le morceau original, et souvent les gens ne l'ont pas, quoi. Ils sont en mode on voit pas ce que c'est et tout, puis après je mets le morceau d'Alia, ils sont en mode ah ok. Et donc je vous parlais du fait qu'elle est assez proche de Daniel Avery et John Hopkins, et donc du coup je voudrais vous recommander aussi le titre Luminous Spaces, l'accent est bof, de John Hopkins, sur lequel elle est en featuring, que j'aime beaucoup. Pareil, c'est un morceau qui dure 7 minutes, et comme tous les morceaux d'électro un peu ambiante comme ça, assez long, il passe par plein de stades différents. Et ça prend le temps de se développer, de monter en pression, de t'en mettre plein la gueule, puis après de revenir un peu à un truc un peu lumineux et tout. Je trouve ça vraiment chouette. La couverture du projet est aussi assez jolie. Donc voilà, je vous conseille de découvrir Kalili Wones, parce que moi je l'avais vue sur scène à Wheel of Green.
Ok.
Je pense il y a 4 ans maintenant, un truc dans le genre. Mmh. Et c'était vraiment, vraiment très bien. Elle est toute seule avec ses 12 machines là, je trouve ça toujours cool.
Ouais ouais ok, bah tu sais quoi, je découvre que j'ai ajouté le deuxième album il y a quelques temps, ouais. Et puis en fait la cover là je la revois, elle est assez parlante en noir et blanc avec ses cheveux là,
ouais,
comme là, une sorte de
un espèce
chapeau,
de casque de cheveux,
ouais. Casque ou chapeau de cheveux, mais je me souviens assez mal, du coup ça me forçait à reprendre,
réécouter, ouais.
Forcer en plaisir, si, un joie à la
si
bonne humeur, hein,
bien
mais voilà, je vais aller reposer une oreille là-dessus.
Ouais, c'est assez plaisir. Chouette. Vous allez voir, c'est pas forcément très techno là, comme ce qu'on vient d'entendre. Ça, c'était vraiment un morceau qu'elle a créé pour un set particulier, pour un gros club et tout. Elle s'était dit, il faut que j'ai un banger, quoi. Ça reste dans l'univers club, mais toujours un peu planant, quoi. Je trouve qu'il y a un côté un peu ambiante que moi j'aime bien. Même si c'est pas toujours bisounours et super planant, tu vois. Genre, il y a toujours des gros kicks et tout, mais j'aime bien en fait sa manière d'expérimenter dans la musique électronique. Et tu vois, genre quand on parle de John Hopkins et de Daniel Avery, qui sont pareil, deux artistes anglais qui sont un peu dans cette mouvance. C'est John Hopkins ou Daniel Avery qui est un pianiste de ouf.
Ah, je saurais pas te dire. Allez, j'ai envie de parier sur John Hopkins.
Oui, c'est John Hopkins. Tout à fait. Voilà. Et moi, dans l'idée, ça me rappelle un peu la manière d'expérimenter musicalement, même si ils sont un peu plus dans les musiques organiques. Des mecs comme Olafur Arnald, Nils Fram, Peter Broderick, tu vois, dans cette énergie-là, en tout cas, de
J'avoue,
musique électronique.
Les noms, je les connais, mais c'est vraiment une branche que je connais.
Que tu connais pas
ouais,
très bien.
Musicalement, ouais, ouais. Que je connais très mal.
Bah, en tout cas, voilà, si jamais c'est des noms qui vous parlent, moi, je trouve qu'il y a un peu une cousinade entre ces artistes-là, quoi.
Ok.
Voilà, c'en est tout pour moi, pour Kalili Wones. Nous pouvons passer au son d'après.
Eh bien, moi... Pour ce troisième artiste du jour, j'ai décidé de vous parler d'un chanteur français que j'ai vraiment découvert tout récemment, au milieu de l'été. La surprise, comme ça, qui t'arrive, un petit projet, tu fais « Oh, je connais pas », je pose mon oreille dessus et j'adore. Ce chanteur, il s'appelle Chéri, et je l'ai découvert en fait dans le prolongement, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était en écoutant un peu la musique d'Oscar Hemsch. Tu sais, Oscar Hemsch, ouais. je découvre un featuring avec un groupe, je crois qu'il s'appelle Bolide. Et puis en allant écouter Bolide, bim, je crois que je tombe comme ça sur Chéri. J'espère pas me tromper, en tout cas c'est comme ça que vient à pop-up ce projet,
okay.
Cet EP Exactement, qui s'appelle Pour te toucher. Donc je vais vous le présenter rapidement avant. Chéri, du coup, il se met à chanter à partir de l'âge de 12 ans, où en fait il se retrouve en tournée pour le spectacle Émilie Jolie.
Ok.
Voilà.
Trop marrant ça.
Ouais, c'est ça. Donc ça commence dès le plus jeune âge. Ça dure 2 ans, par tranche un peu, tu sais, de 2 semaines. Bah oui, parce qu'il y a quand même un stage là normalement,
oui,
sinon t'es à l'école. Mais du coup, avec la troupe, il enchaîne derrière, après ces 2 ans, sur le spectacle Le Soldat Rose.
Ah ouais.
Mais lui se retrouve contraint d'arrêter au bout d'un an, car on lui diagnostique une infection des cordes vocales.
Ah merde.
Du fait, qu'il travaillait trop, lui-même il raconte en gros que c'était un peu comme un enfant chinois qu'on prépare à une épreuve des Jeux Olympiques, tu vois.
Ok. Ça fait pas rêver donc.
Non, ça fait pas rêver. D'accord. Comme ça, même si lui, tu vois, il a pas du tout de vision obscure de cette période-là, il kiffait. Mais
oui,
c'est
oui.
vrai que par contre,
c'était
beaucoup d'exigences, ouais. Et notamment sur les cordes vocales. Et bref, du coup, infection, et le médecin lui dit tout simplement qu'il faut arrêter de chanter indéfiniment.
Waouh.
Il a, à ce moment-là, il a 17 ans, il se voyait faire ça de sa vie, tout simplement.
Mm-hmm.
Donc, c'est un coup de massue, il fait un peu une dépression et décide de monter sur Paris et se rabat un peu sur le théâtre. Malgré tout, ça commence à marcher pour lui, mais il sent, au fond de lui, tu vois, que la musique le gratte toujours.
Ok.
Et à cette période-là, du coup, on est en 2019, ses amis décident de le traîner à Willow of Green, et si je dis traîner, c'est parce qu'il raconte lui-même, à cette période-là, il voulait plus aller voir des concerts.
Okay.
Tu vois, il y avait, je pense, une sorte de rejet. De...
Ouais.
Voilà. Et finalement, c'est pas du tout, allez, vas-y, viens, accompagne-nous à Willow of Green, et il se prend une giga tarte, parce que, c'est vrai que je le comprends, j'étais à cette édition-là, il voit, en très peu de temps, Rosalia,
ouais.
FK Twigs, Christine and the Queens, bref, là, il réalise qu'il peut pas se mentir à lui-même, c'est ça qu'il veut faire.
Ouais.
Donc, à l'époque, il contacte un pote qui compose des prods et tout. Il lui dit, tiens, j'aimerais bien me remettre à chanter. Il lui envoie un DM, tu vois,
ouais.
Auquel le mec ne répond pas.
Mais bon. c'est donc un pote à lui ?
Ouais, il dit que c'est comme ça qu'il le présente, en tout cas dans l'interview. Mais tu vois, le mec, sur le coup, ne répond pas. Bon, bref, il se laisse pas quand même abattre. Et il décide d'aller consulter un spécialiste qu'on appelle un phoniatre. Je découvre ce mot-là, pour voir un peu où en sont ses cordes vocales. Et la personne en face de lui dit que ce qu'on lui avait dit à l'époque de faut plus chanter, vitam aeternam et tout, qu'en vrai c'est criminel ce qu'on lui a dit, et qu'en remusclant en fait ses cordes vocales, il serait tout à fait en capacité de chanter. Peut-être pas sur des tonalités de folie, mais qu'en vrai, il y a plein de chanteurs, n'importe quel chanteur, tu vois, qui, avec des voix un peu cassées, un peu machin, arrive à faire plein de choses hyper intéressantes. Donc, ça le rebooste. Il se met un peu à travailler de son côté, à remuscler ses cordes vocales, et jusqu'à, il raconte un peu l'un des tournants, c'est il décide de se filmer tout simplement avec son téléphone portable en train de chanter. Et, motivé, je crois, par sa mère, il poste la vidéo sur Instagram.
Ouais.
Et là, il se couche, et le lendemain matin, boum, 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 plein de messages de gens qui savent aussi ce qui lui est arrivé, donc c'est vachement dans le soutien, et tombe dans les DM ce fameux pote à qui il avait envoyé un message il y a quelques mois auparavant, en mode, mais attends, c'est vraiment toi, là Et il décide de se capter, de travailler en studio pendant 3 jours, et ce qui va devenir l'un de ses premiers singles, qui s'appelle Vague, c'est un peu ce qu'il remet dans un élan, qui va déboucher sur un EP qui s'appelle Pour te toucher, qui est sorti en avril 2022, et je vous propose du coup d'écouter le titre éponyme, que moi qui est l'un de mes préférés, et après vous parler de ton histoire, je vous propose, on revient et on parle un peu de sa musique.
La lune me parle de liberté. Elle hurle de m'envoler. Seule dans le noir, j'ai peur du soir. Je sors.
gens me regardent quand je passe devant eux. Nos corps à la dérive, je te sens mieux quand je ferme les yeux. Je te vois me regarder, je ne veux pas de toi, tu peux laisser tomber. Je me donne du plaisir, je n'ai pas besoin des autres pour me toucher.
C'était Chéri avec le morceau Pour te toucher. Louis, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu en penses ? J'avoue, je suis très curieux d'avoir
très
ce
bien.
Que tu en penses.
C'est très, très bien. En fait, j'ai un peu le seum. Parce que j'ai ma pote Estelle, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast, qui m'avait parlé de Chéri il y a quelques mois. Je me souviens qu'elle m'avait dit, il y a ce truc-là qui est sorti, mais c'était en soirée.
Ouais.
Elle m'avait montré vidéo YouTube, machin, j'étais là, ah, cool. Esthétiquement, il y a un truc qui ressort, du coup, ouais, je vais aller me pencher sur le gars, machin, nan. Bien sûr, est-ce que je l'ai fait ? Pas du tout. Et là, j'avoue que du coup, j'ai un peu le seum que ça soit toi qui ramène. mais le morceau, bah déjà, ce morceau est très bien, quoi. Enfin, genre la prod est incroyable. Je trouve que c'est hyper ingénieux. Il y a plein de petits trucs où tu te dis genre, oh, c'est cool ça. Oh, ça aussi, c'est cool. Et je trouve que il a une manière d'utiliser différents flows qui est chouette entre le côté un peu rappé, le côté chanté du refrain, mais un autre chant sur un autre moment. Enfin, je trouve ça assez chouette. Et tu vois, tu parlais de Christine and the Queens qui a changé de nom maintenant et de pronom aussi qui s'appelle Redcar maintenant et il faut il faut le genrer il
oui. Et du coup même nouveau nom d'artiste du coup.
Ouais, nouveau nom d'artiste. Bah je pense que c'est la nouvelle
bien sûr ouais bah évidemment. Non mais c'est
mais Chris...
bah, c'est couillu parce que franchement vu le retentissement obtenu avec tu vois les précédents projets
ouais bien sûr
c'est courageux
bah,
de
ouais
de
après ouais ça enfin bon ça m'étonne pas de Redcar que ça soit le un peu tu sais j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles phases à chaque projet
ouais,
quoi
bien sûr c'est vrai
donc là il va sortir un nouvel album bientôt mais en tout cas dans l'attitude je trouve dans il y a un espèce de côté un peu charismatique là chez Chéri que je retrouve un peu chez Redcar je trouve il y a en tout cas j'ai trouvé des similitudes et c'est vraiment un compliment parce que j'aime beaucoup moi ce que fait Redcar je me souviens que le premier album je l'avais saigné le deuxième album moins mais il y a des morceaux qui
je te rejoins totalement moi c'est l'une des choses qui fait que je pense que j'ai accroché tout de suite avec la musique de Chéri c'est que je retrouve une sorte de pop un peu qui vient incorporer pas mal d'influences notamment du rap effectivement et des sons plus électroniques dans la continuité effectivement du premier album qui était Chaleur humaine où moi vraiment ça avait été une très 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 belle découverte à l'époque.
Ouais,
j'avais
pareil.
Vraiment saigné l'album. Donc évidemment, je trouve ça en plus intéressant parce que du coup, Chéri, je pense, s'est pris la claque Christine and the Queen sur scène et je comprends pourquoi et éventuellement les similitudes dans sa musique.
Ouais, bien
mais
sûr.
En fait, j'ai l'impression que c'est du coup une sorte d'artiste dans le prolongement la nouveauté quand même qu'avait amené du coup Christine and the Queens avec le projet, tu vois, effectivement. Moi, c'est pareil, le deuxième album, j'avais pas vraiment pas accroché plus que ça.
Moi, il y a un morceau qu'il avait fait avec Charlie XCX que j'ai saigné, mais genre vraiment, c'était de ma drogue pendant 3 semaines, j'écoutais que ça, j'étais en mode, j'adore ce morceau, il est trop bien. Donc, ouais, je comprends. Mais franchement, là, très agréablement surprise de ce morceau là pour te toucher c'est validé j'ai ajouté l'EP
bah surtout écouter, je vous en parlerai un petit peu plus tard moi j'ai quand même juste envie de revenir sur le morceau et du coup ce que j'apprécie particulièrement déjà c'est cette liberté dans l'approche musicale c'est-à-dire ce mélange d'ambiances qui sont juxtaposées et qui bizarrement fonctionnent très bien ensemble ce que je trouve hyper paradoxal c'est que quand t'écoutes le morceau évidemment que c'est hyper méticulé dans la préparation, dans le travail musical. Tu vois, toutes les petits sons, les petites notes par-ci, par-là. Et en même temps, quand j'écoute ce morceau, je peux pas m'empêcher de ressentir quelque chose d'hyper instinctif.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Et ça, je trouve ça très fort.
Oui, malgré un arrangement hyper quali,
tu
te
dis, waouh, c'est comme si ça sortait comme ça, tu vois. Et c'est là où je pense où tu ne peux que féliciter vraiment le travail parce que pour arriver justement à donner cette impression-là, c'est que justement, il y a beaucoup de travail en amont. Et paradoxalement, je l'écoutais un petit peu dans ce que j'ai pu lire dans des interviews et dans l'EP. Par exemple, il chante en 3 langues, c'est-à-dire en français, en anglais et en espagnol. Il dit qu'il le fait un petit peu au feeling selon la prod et comment il le sent, tout simplement. Et il raconte aussi que c'est quand même beaucoup de textes, par exemple sur cette EP, qu'il a écrit il y a plusieurs années. Donc, je trouve ça intéressant, cette espèce de mélange, à mon avis, entre pulsion de faut que ça sorte. En plus, globalement, il raconte que c'est beaucoup de sujets sur, enfin qu'il a beaucoup écrit en rupture.
Ok.
Enfin, là, l'EP est vachement habité par ça, c'est-à-dire une rupture douloureuse, tu vois, qu'il a poursuivi pendant longtemps. Donc voilà, tu ressens cette espèce de besoin de cracher un peu tout ça.
Ouais.
Et à côté de ça, je trouve qu'il y a quand même un truc hyper bien agencé qui rend le projet musicalement...
Ouais, ça a l'air très chouette. Ouais.
Voilà, et tu parlais de sa voix. Moi, je trouve ça quand même aussi hyper intéressant quand tu vois... je vous ai raconté un peu toutes les péripéties qu'il avait connues avec sa voix. Quand tu vois ce qu'il arrive à en faire là, je trouve ça assez balèze. Il a du coup une voix assez efféminée, même parfois, je pense qu'à s'y méprendre, tu peux... avoir l'impression, je pense que c'est une femme. Mais j'aime beaucoup, justement, quand il est dans sa voix un peu plus haute, comme ça. Je trouve ça hyper envoûtant et magnétique. D'ailleurs, il y a tout un travail, plus globalement, quand même, tu parlais de ses clips, du coup.
Ouais.
Il y a tout un travail sur sa DA. Et il développe toute une identité queer, tout simplement. Mais je trouve, pareil, qui visuellement, je trouve, est intéressant. Je vous parlais de comédien, et ça se sent aussi, parce que tu sens qu'il y a vraiment un travail de... présence à l'image fort, tu vois, vraiment d'interprétation, j'ai envie de dire. Pour vous dire, bon, ça va certainement pas vous surprendre, mais dans les inspirations, il dit s'inspirer principalement d'ailleurs de meufs. Il parle de Kalika, quand même, c'est rigolo, ouais. De Johanna. Il parle aussi du groupe Ascendant Vierge.
Mm-hmm.
Et puis après, dans les boss, il parle de Lady Gaga, de Madonna, de Mylène Farmer.
Ouais, ouais.
Bon, voilà. Les
icônes pop queer.
Les icônes, exactement. Ouais. Mais du coup, voilà, je vais prolonger tranquillement sur l'EP parce que c'est un de mes coups de cœur de l'été, sans hésiter. J'ai hésité pas mal comme avec le morceau parce que le morceau qui ouvre l'EP qui s'appelle Kiro Comerte, j'ai l'impression que c'est un peu d'ailleurs son plus gros single.
Mmh.
Et je comprends parce que franchement, c'est un morceau assez patate et hyper efficace.
Okay.
Ça, je vous le recommande vraiment. Et puis, moi, j'ai une affection toute particulière pour le morceau Canción de Cuna, qui est du coup une sorte de complainte chantée en espagnol. Franchement, tout droit sorti d'un film du Seigneur des Anneaux.
Okay.
Et là, ça paraît totalement what the fuck par rapport à ce qu'on vient d'écouter. Mais je sais pas, je trouve que ça s'incorpore très bien dans le projet. Donc voilà, 6 morceaux, ça s'écoute tout seul.
Okay.
Allez écouter donc l'EP pour te toucher. Je vous recommande aussi chaudement, du coup, en deuxième recommandation, le single, dont son premier single, qu'il a travaillé du coup avec l'ami des machins, qui s'appelle Vague. Moi j'aime beaucoup ce morceau. Et puis la troisième roco, elle sera pas surprenante, mais moi vu que c'est un album que j'ai beaucoup écouté, l'album Chaleur Humaine, du coup, que pour l'instant je pense vous deux allez trouver quand même à Christine and the Queens, mais voilà, qui est pour moi vraiment un très grand album, je pense, pour l'avoir écouté pour l'occasion. Il y avait vraiment une proposition hyper originale pour l'époque et qui remonte, hein, parce que mine de rien, ça va faire bientôt 10 ans, je crois.
Oui, je pense. Ouais.
Et bravo, voilà, parce que c'est vraiment un bel et grand album. Si vous ne l'avez pas déjà écouté, c'est à faire.
Tout à fait, je suis d'accord.
C'est tout pour moi. On passe au son d'après.
Et pour finir cet épisode en beauté, je voudrais vous parler de M.I.A. Je sais, c'est une artiste qu'on connaît déjà beaucoup. Et en fait, à la base, je voulais vous ramener son dernier single qui s'appelle Popular parce que je l'ai grave kiffé et je me suis dit que c'était la bonne occasion de parler d'elle.
Ouais, et puis ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas entendu parler des Maillets, je sais pas, tu nous vas peut-être nous dire, mais franchement,
eh bien,
ça fait une éternité.
Une éternité, peut-être pas quand même, 2016.
Ah, elle a quand même 6 ans, hein,
ouais,
dans le monde de la musique,
ça fait
loin. Hein.
C'est vrai. Au cas où, pour les gens qui ne remettraient pas ce nom avec de la musique, vous êtes en mode « Ok, M.I.A. c'est qui ?» Peut-être que vous l'appelez Mia, c'est possible aussi. Vous connaissez sûrement son énorme tube « Paper Planes ».
Pam, 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 pam.
Tu fais très bien. Sinon, elle avait aussi sorti « Borders » ou encore « Bad Girls » qui sont vraiment ses singles les plus populaires.
Tout à fait.
De son vrai nom, Matangi Maya Arul Pragasam, c'est une artiste pluridisciplinaire anglaise d'origine tamoule sri-lankaise. Elle a grandi les premières années de sa vie à Jaffna au Sri Lanka avant la guerre civile, pendant laquelle sa famille s'est réfugiée à Londres à nouveau, parce qu'elle est née à Londres. C'est une artiste engagée qui a fait des études dans le cinéma, mais qui fait aussi de la peinture, en plus de la musique et d'être productrice, etc. Son pseudo MIA signifie Missing in Action. Et c'est globalement un nom qui va à l'inverse de son engagement politique et social dans ses chansons, mais aussi en dehors. Et je voulais donc vous parler de son nouveau single populaire que Clément, ici présent, m'a envoyé il y a quelques semaines en me disant « Je pense que ça va te plaire ». Et tu avais raison, ça m'a plu,
yes.
C'était super.
Toi.
Mais finalement, en fait, j'ai changé d'avis parce qu'en préparant l'émission, j'ai écouté ses albums précédents afin de vous faire des recommandations de qualité. Et en fait, il fallait absolument que je vous parle de son tout premier album, qui est une masterpiece de A à Z. Cet album s'appelle Aroulard, et franchement, s'il sortait aujourd'hui, ça m'étonnerait même pas en fait, tellement il représente un hybride de son et de rythmique qui ressemble à tout ce qui me fait kiffer le plus musicalement ces derniers mois. Pourtant, c'est sorti sur le fameux label XL Recordings, dont on parle, j'ai l'impression, tous les trois épisodes, et c'était en 2005.
C'est les boss, hein.
En 2005, donc, Aroulard sort, et vraiment, je vais vous faire écouter un morceau, il pourrait sortir aujourd'hui. L'album est écrit et composé par MIA, en collaboration avec pas mal d'autres producteurs, notamment un certain Diplo, qui apparaît dans les crédits de deux morceaux, mais en fait, il a bossé avec elle sur une mixtape juste avant, dont je vous parlais un peu plus tard, qui, en fait, se regroupe pas mal de morceaux qui sont sortis sur cet album. Le morceau que j'ai décidé de vous passer, c'est Fire Fire, le cinquième titre de l'album. On écoute. De MIA, quelle efficacité! Qu'est-ce qu'on en a pensé, mon cher Clément?
Eh bah écoute, ouais, c'est vrai que c'est assez troublant. Bon, c'est clairement, je n'avais jamais, je pense que
j'avais jamais entendu.
Ouais, je pense que j'ai jamais dû vraiment écouter cet album. C'est, bah j'ai trouvé ça pas mal. Je te rejoins pas tout à fait sur le côté ça pourrait sortir aujourd'hui dans le sens où je trouve qu'il y a quand même un son beaucoup plus brut. Que peut-être ce qu'on pourrait entendre maintenant, mais c'est peut-être qu'une interprétation ou qu'un sentiment, tu vois, qui est peut-être pas plus justifié que ça. Mais je trouve qu'il y a quand même un côté très, ouais, voilà, très brut, qui me le ramène du coup à une certaine, peut-être à, voilà, une période un tout petit peu plus ancienne, ou peut-être tout simplement que c'est un premier album et que c'est aussi ça, tu vois.
Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que musicalement, ça se rapproche vachement de toute la nouvelle scène là qui joue un peu avec les codes des différents genres musicaux. Qu'on fait leur enfance ou genre leurs racines, etc. Je pense à tout ce qui est néo-péréo, tout ce qui est dancehall un peu futuriste.
Je pense à ce que tu veux dire.
À 15-15, à Florentino, à Isabella Love Story, Bambi, enfin, tu vois, genre des trucs vraiment où il y a de la fusion en fait. Il se passe un truc.
Oui, oui, dans ce sens-là, je suis d'accord. Après, je pense que c'est les sonorités où je retrouve pas tout à fait ça, mais ce qui est logique, hein,
je pense que c'est tout simplement
une autre période. Mais moi, tu veux que je te dise là, je sais pas pourquoi, quand j'ai entendu ça m'a fait penser, mais en plus j'ai regardé un peu les dates, donc c'est une artiste qui arrive après, mais ça m'a fait penser par exemple à ce qu'avait fait Headbanger avec Euphi.
Ouais.
Du coup, en entendant ce morceau-là, par contre, effectivement, je repère du coup beaucoup de chanteuses et comment, enfin à quel point Mia, à mon avis, a certainement
influencé
beaucoup d'artistes qui sont sortis par la suite, quoi.
Ouais, bien sûr. Bah, en tout cas, moi je trouve que cette prod est très efficace. Je trouve ça hyper intelligent, la manière dont c'est foutu. Il y a, en fait, au début du morceau, presque tous les 16 temps, il y a un nouvel instrument qui arrive, quoi. Au fur et à mesure, le morceau prend en couche, quoi. T'as une nouvelle couche, une nouvelle couche, une nouvelle couche. Comme je disais, moi je trouve que vraiment musicalement, il y a un truc où ça tente des trucs. Et je pense qu'en 2005, vraiment personne faisait ça, à part Emaillé, quoi. Et je trouve que du coup, ça rejoint pas mal, voilà, toutes ces scènes-là dont je parlais. Moi, tu m'aurais mis ça aujourd'hui en me disant c'est pas Emaillé, c'est quelqu'un d'autre. J'aurais écouté, ouais, j'aurais fait ouais, c'est super. Au deuxième refrain, j'aime bien, il y a une petite alarme un peu qui sonne comme le Work It de Missy Elliott qui fait... Et en fait, c'est marrant parce que dans le morceau, elle fait une référence à Missy et Timbaland. C'est deux artistes, a priori, qu'elle aime beaucoup, dont elle aime beaucoup le travail. Et j'imagine que c'est un clin d'œil à Work It qui sort vraiment littéralement 3 ans avant. En tout cas, je sais que ça fait partie de ces icônes Missy Elliott, Timbaland.
Okay.
Donc je disais, il y a plein de titres de l'album A Roulard qui sont issus d'une mixtape qu'elle avait sortie en 2004 avec Diplo, qui s'appelle Piracy Funds Terrorism, volume 1, sur laquelle on retrouve du coup plein de premières versions de l'album A Roulard, dont de Firefire. Et il me semble qu'il y a un morceau de Missy Elliott qui se cache dans la mixtape. En gros, c'est vraiment une mixtape à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est un mix de Diplo avec des morceaux de Mia mélangés à d'autres morceaux
D'accord,
qu'on connaît.
Ouais, je vois le délire.
Donc il y a du Drop It Like It's Hot de Snoop et Pharrell, il y a Walk Like an Egyptian des Bungles, etc. Donc tout se mélange un peu, et c'est assez cool. Sur ce morceau, elle parle de l'industrie musicale, de cette idée un peu que les gens ils doivent écouter de la musique populaire, et un peu la musique populaire, elle peut que être un peu neutre et un peu fun, parce que sinon les gens sont trop bêtes et ils peuvent pas comprendre la politique, etc. Et donc du coup, il y a un espèce de truc dans Firefire où elle dit, c'est un peu sa manière de dire, en fait ça va vous revenir dans la gueule, et moi je ferais pas partie de ce truc là, quoi. Et donc d'où le Firefire, tu vois, genre c'est, je sais plus ce qu'elle dit exactement, mais c'est vraiment ça va vous péter à la gueule.
Okay.
C'est un morceau qui est produit par elle avec Hunt Whitting. C'est un producteur qui a bossé avec des gens du début des années 2010 dont on a peut-être un peu oublié l'existence, genre John Newman et Rizzle Kicks. Je sais pas si ça te parle, c'est des artistes anglais.
Je sais même pas si j'ai déjà entendu ces
Franchement,
c'est enfin,
old
le John Newman, c'est un nom tellement, ça fait tellement, j'ai entendu ça.
Ouais, bah t'as forcément entendu ça. Si je te montre sa tête, tu vas faire ah oui, ok, je vois qui c'est John Newman, mais on n'a pas de. Enfin, moi, j'ai pas d'historique musical de cette personne, quoi.
Pas du tout.
Bref, et donc, de manière générale, j'avoue que cet album, il m'a mais trop fait kiffer, quoi. Et en fait, honnêtement, c'est un peu la première fois que j'écoute M.I.A. vraiment. J'ai jamais été très assidue dans la carrière de M.I.A. Je connais ses plus gros morceaux, un peu comme tout le monde,
sûr.
Tu vois. Mais j'avais jamais plus digué que ça. Je pense qu'il y avait un côté où j'étais peut-être pas encore prête à écouter sa musique, tu vois. Je me souviens de...
Bah, en vrai, je sais pas si... Peut-être que je me trompe, mais là, moi, quand j'écoute ce morceau-là, je trouve ça exigeant. Hein. Enfin, c'est pas du son facile à écouter, je trouve. Et là, j'aime bien, mais il y a quand même un côté, comme je te disais, je pense le côté très brut, etc., qui fait que je me le prends pas totalement.
Mais
dites-moi, peut-être que c'est que moi, mais là, je trouve ce qu'on vient d'écouter, je trouve ça exigeant.
Bah ouais, je pense que de manière générale, la musique de M.I.A. elle est un peu exigeante en vrai.
Pas les tubes. Les tubes.
Si. À part Paper Planes. Qu'on a assez écouté pour se dire c'est ok, c'est un tube. Bad Girl, ça reste un morceau qui est compliqué. Hein. Je veux dire, c'est pas un.
Je suis pas d'accord.
Bon, écoute, on sera pas d'accord.
On sera pas d'accord, exactement.
Pour moi, M.I.A., sa musique, elle reste compliquée, même si. En fait, musicalement, ça reste un truc que t'as pas l'habitude d'écouter dans de la pop, tu vois. Genre, la manière dont le morceau il est construit, cette espèce d'hybride électro-pop chelou.
Après,
c'est pas un truc facile, quoi.
Je trouve que peut-être que dans la forme, que ça soit original, je suis d'accord. Après, je trouve que dans l'exécution, il y a une réussite telle qui, je pense, en fait un morceau hyper efficace.
Bah, pour moi, c'est un morceau hyper efficace. Je sais que c'est pas un morceau que je passerais en soirée full tube.
Bad Girls, non ?
Non.
Ah ouais ? Eh bah, d'accord.
Bah, okay. Je sais que quand je le passe, j'ai des regards de gens qui sont en mode c'est quoi ce truc, tu vois ?
Ah ouais, d'accord. Ouais. Eh bah, écoute, alors, c'est peut-être ma distorsion. Moi, j'avoue que j'ai l'impression.
Et après, ouais, mais voilà, je pense que c'est un truc de... C'est nos cœurs de geek musique, j'imagine.
Ouais, ouais, ou de gens aussi de scènes, tu vois, différentes, quoi. Ouais, c'est ouais. Sûr que moi, pour moi, je voyais ça effectivement comme un gros,
ah, mais c'est
gros
un,
tube.
Oui, mais... c'est un banger pour plein de gens, hein, mais je sais que sur des soirées vraiment mainstream, c'est pas forcément le morceau le plus banger, quoi.
Ok.
Et du coup, je me souviens que ma pote Kim, enfin notre amie Kim, qu'on a en commun, dont on vous parle souvent, elle m'avait envoyé le titre Galang, qui est extrait de cet album-là, qui est le premier single, il y a quelques années, et en essayant de me convaincre vraiment d'écouter plus de M.I.A. Et vraiment, il y a 5 ans, j'étais vraiment, je comprends pas, en fait, ça ne me parle pas. Et en fait, bon, bah voilà, je me suis remise en question, et j'avoue.
Mais vaut tard que j'ai.
Voilà, Kim, tu avais raison, ça défonce. Et donc, ça va donc m'amener aux recommandations. Bien sûr, parce que je voudrais vous donner envie d'aller écouter le disque à roulard, si c'est pas déjà fait. Dans les morceaux que je retiens, il y a notamment Amazon, qui a des rythmiques assez dancehall, mais aussi le morceau $10, plus sur un côté un peu 90s, électro-90s, un peu inclassable. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les cowbells. Je ne saurais pas vous faire le bruit, mais ça fait, c'est les petits ting-ting. Vraiment, on dirait que tu tapes sur une cloche, quoi, finalement. c'est d'où le nom. Et dans un style un peu plus calme, il y a le morceau Sun Showers, qui est très cool, avec un refrain chanté assez inattendu pour du M.I.A. qui est chanté par une autre artiste, dont bien sûr j'ai pas noté le nom car je suis nulle, mais je le mettrai dans les notes du podcast, et qui a une vibe un peu jungle, mais vraiment très down tempo, quoi. Ça doit être 90 battements par minute. Et wesh, franchement, je me suis pris une petite claque en écoutant cet album, et j'étais là genre, waouh, mais ça c'est trop bien. Et du coup, je me suis un peu arrêtée là-dessus, j'étais là, je vais pas écouter les autres albums, en fait, c'est ce disque que je vais parler, et c'est tout. Mais donc du coup, pour prolonger l'écoute, hormis cet album, je voudrais vous conseiller du coup bien sûr d'aller écouter son dernier single Popular, qui est coproduit par Diplo et un mec qui s'appelle Boz van de Beats, qui est un producteur néerlandais qui taffe notamment avec Major Lazer sur le label de Diplo qui s'appelle Mad Descent et qui a son propre label à lui. C'est très efficace et vraiment il est hyper... pour le coup, je trouve que c'est assez facile d'accès. Je sais pas, dis-moi si je me trompe.
Ouais, oui, il faudrait que je le réécoute parce que ça fait quelques semaines et je t'avoue, je m'en souviens plus très bien. Mais je le trouvais assez facile d'accès.
Moi, je l'ai réécouté plusieurs fois et je le trouve très bien. Et pour finir, il y a un documentaire qui est sorti sur elle en 2018 qui s'appelle Matangi Maya M.I.A. de Steve Loveridge. Loveridge plutôt, qui retrace un peu sa vie avec plein d'images d'archives, de comment sa musique est devenue très populaire très vite et du coup comment ça l'a un peu overwhelmed, quoi, et aussi sur son histoire familiale, parce que donc je vous disais, elle est née à Londres de parents expatriés qui sont repartis ensuite au Sri Lanka. Et ensuite, ils ont fui la guerre civile dans laquelle son père était pas mal engagé, puisqu'il était acteur de la résistance. Donc, si j'ai bien compris, c'était une guerre d'ethnie. Lui, il faisait partie des Tamouls. Les gens au pouvoir, c'était une autre ethnie dont je n'ai pas noté le nom. Et donc, bref, c'était assez compliqué. Donc, je crois qu'elle n'a pas vu son père pendant longtemps, etc. Et en gros, ce documentaire retrace un peu, genre, d'où elle vient et pourquoi est-ce qu'elle est si engagée aujourd'hui, etc. J'avoue que je ne l'ai pas vu, mais je vous le conseille quand même.
Écoute, Jean, il me semble que mon ancien colocataire, Maxime, l'avait vu et a priori avait trouvé ça très bien.
Avait trouvé ça bien, bah, formidable. Moi, de manière générale, comme tous les documentaires un peu qui retracent les vies des artistes et qui essayent de parler un peu d'eux en profondeur, j'ai toujours une partie où je me méfie parce que j'ai toujours un peu peur que ça soit genre regarder cette personne est formidable.
L'artiste, ouais, je suis d'accord. Ouais.
Mais en même temps, je me dis que ça peut quand même nous apprendre des choses sur Maya. Donc
voilà, bah, et puis surtout, moi, je sais que Maya, elle a toujours eu cette espèce d'aura et de charisme, tu sais, un peu à part quand même. Ouais. Elle jouit en tout cas, je trouve, de cette image d'artiste quand même un petit peu en dehors de, tu vois, des codes,
oui,
totalement.
Oui.
Et du coup, elle en est assez, je trouve, en tout cas moi, instinctivement, je la trouve, elle a l'air intéressante, tu vois.
Oui, oui, bien sûr.
Moins lisse que effectivement beaucoup de pop stars ou de choses qui ont pu sortir, tu vois.
Ouais, mais je pense justement que ce...
Elle m'a l'air de vouloir de se placer très loin de tout ça et
ouais. Ce documentaire, c'est un peu ce truc là, quoi. C'est genre, ouais, pourquoi est-ce que tout le monde voit M.I.A. comme une pop star à part alors que peut-être qu'elle l'est pas, peut-être qu'elle l'est, je ne sais pas, je n'ai pas les réponses car je n'ai pas vu le documentaire, mais je vous conseille d'aller le voir, ouais, et je vais le regarder aussi.
Parfait. Bon, on va faire ça du coup.
Ouais, exactement. Et ça conclut cet épisode finalement.
Et bah oui, tout à
nous
fait.
Nous sommes arrivés à la fin. Clément, je te laisse avec les petites recommandations habituelles.
Évidemment, et ben Maintenant, vous commencez à en avoir un peu l'habitude, mais du coup, vous pouvez retrouver les 4 nouveaux morceaux qu'on vous a présentés aujourd'hui dans la playlist du son d'après, que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes de streaming. Évidemment, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter et Instagram. On a aussi prononcé beaucoup de noms un peu compliqués, donc vous pouvez retrouver en fait toutes les références qu'on a fait dans cet épisode dans les notes du podcast. Et puis, vous savez aussi que si vous nous aimez, si vous avez aimé cet épisode, tout ça simplement, vous pouvez en parler autour de vous. On sait que c'est souvent comme ça que ça marche le mieux. Et puis, voilà, si vous avez 5 minutes aussi, des petites étoiles sur Apple et sur Spotify, un petit commentaire. Voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous d'une quelconque manière. On aime beaucoup recevoir vos petits messages et on vous répond la plupart du temps.
Voilà. On n'est pas toujours très assidu sur les MP Instagram,
c'est
mais
vrai.
On est là.
On n'a voilà, on a pas le téléphone greffé à la main. Mais en tout cas, on regarde ça avec attention et avec beaucoup d'amour. Donc, merci encore d'être là parce que quand même, c'est la rentrée. Et
oui.
A priori, vous êtes toujours avec nous. Donc, et bah, nous, on continue. On est toujours là, motivé. Et puis, bah, du coup, Louise, qu'est-ce qu'on se dit?
À dans deux semaines.